On est très très heureux d'être là. Donc j'en profite pour remercier notamment l'équipe d'anciens de Marguerite. Merci pour votre confiance, pour votre amitié. Vous pourrez censurer ce qui ne vous plaît pas dans mes prédications une fois que je serai parti. Mais voilà, vraiment, c'est une joie pour nous d'être là. Noéline, effectivement, que vous avez peut-être vu, donc, qui est enceinte, qui est un trois quarts, oui, comme disait Luc tout à l'heure. Le bébé arrive en novembre, donc voilà, on se prépare à repartir. Dans les couches, dans les nuits un peu chahutées, on a Anastasia donc qui a 4 ans, enfin qui va avoir 4 ans en fin d'année, et qui aura un petit frère juste avant, un petit garçon. Voilà. Et puis pour mon parcours, bah, brièvement, donc on vient de Grenoble avec Noéline, on s'est rencontrés à Grenoble tous les deux. Et puis moi j'ai une formation d'ingénieur à la base, et on est monté sur Paris, chose qu'on ne voulait absolument pas, mais on est monté sur Paris pour mon premier travail. Comme ingénieur, donc je travaillais en imagerie médicale à la Pitié-Salpêtrière, un des hôpitaux de Paris, voilà, qui est un peu connu, et au CEA de Saclay aussi. Et au bout de 3 ans, j'ai complètement changé. Je suis parti en fac de théologie. Voilà, donc je suis à la fin de mes études maintenant. Je suis en train d'écrire mon mémoire de recherche, voilà, sur l'Apocalypse de Jean. Sujet épineux, mais intéressant. L'Apocalypse, oui, l'Apocalypse, voilà. Donc, et du coup, entre-temps, j'ai rejoint Fireplace, et voilà, qui a été fondé par Nathan Lambert, plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Et on dirige l'église en ce moment, voilà, tous les deux avec une équipe élargie, on est deux anciens, et on veille sur la direction de l'église, la croissance de l'église. Et donc, voilà, ravi encore une fois d'être là, voilà, pour le parcours un peu rapide. Noéline, vous pouvez échanger avec elle aussi, elle est institutrice spécialisée, je sais qu'il y a des profs ici, des instituts, donc voilà, vous avez une collègue parmi vous. Donc pour ce qui nous concerne, pour ce week-end, donc Farid m'a dit, j'avais deux prédications, pas une, pas trois, mais deux, donc je me suis dit, bon, deux prédications, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en deux prédications? Est-ce que je fais une mini-série de deux messages? Ou bien est-ce que je pars sur des textes vraiment très différents? Donc j'ai prié, et il y a une chose qui m'est venue assez rapidement, un message qui m'est venu assez rapidement, que j'ai vraiment sur le cœur ce matin, et c'est un message à partir d'un texte assez familier, okay, c'est 1 Corinthiens 13. Donc en prêchant sur ça, je me suis dit, est-ce que je pars avec un désavantage? Je ne sais pas, parce que le problème avec les textes familiers, c'est qu'on les connaît. Hein, on se dit, ouais, ça va, je sais, je connais. Peut-être que même d'ailleurs à la simple évocation du chapitre, 1 Corinthiens 13, vous êtes dit, c'est bon, je finis ma nuit tranquille, je vais pouvoir roupiller encore un peu. Mais ce qui se passe, hein, quand on connaît un texte, c'est que généralement, on va l'aborder moins attentivement et on a moins la possibilité d'être touché, d'être interpellé par le texte. Ça serait dommage que ça soit le cas ce matin, parce que précisément à ce texte 1 Corinthiens 13, quand on y réfléchit, quand on y pense, c'est vraiment un des textes, je trouve, les plus interpellants de la Bible. Donc, toute la Bible est interpellante, mais 1 Corinthiens 13, je trouve, l'est particulièrement. Et comme on va voir ce matin, 1 Corinthiens 13, ce n'est pas juste le passage qu'on affiche là, dans notre chambre de couple marié ou dans le salon parce que ça sonne bien, c'est beau, c'est poétique. C'est plus que ça, c'est bien plus que ça. Et même, hein, on peut se dire, quand on lit un texte, que ce soit celui-là ou un autre de la Bible, on connaît peut-être le texte, la question c'est jamais est-ce que je maîtrise le contenu du texte et comment dans ma vie je le vis ce texte-là, comment je le mets en pratique. Donc ce matin, s'il vous plaît, laissez-moi une chance sur ce texte, laissez surtout à Dieu l'occasion, l'opportunité de vous interpeller à nouveau avec ce texte 1 Corinthiens 13. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va lire quelques versets, 1 Corinthiens 13, je vais même commencer... juste avant, 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 31, je commence par là. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul. Je vais vous indiquer la voie par excellence. Il y en a un d'entre nous hier qui priait pour ça, je crois que c'était peut-être toi Joël, qui priait pour que les voies du Seigneur soient les nôtres cette année. Et ben voilà, voici la voie par excellence, selon les Écritures. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Je m'arrête ici dans la lecture. Merci. Je m'arrête ici dans la lecture. Donc il y a de ça 5 ans, à peu près 5 ans, notre professeur de grec ancien à la fac de théologie nous avait donné de faire un devoir. Il nous avait demandé de faire la traduction de tout le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains. Voilà, on devait traduire tout ce texte-là, tout le chapitre 3. Et un de mes amis à l'époque s'était trompé. Il était arrivé en cours, il avait traduit le chapitre 1, pas le chapitre 3. Mais bien sûr, hein, il ne savait pas qu'il s'était trompé. Il avait cru bien faire. Il était persuadé d'avoir traduit le bon chapitre. Et c'est en arrivant en cours qu'il a découvert son erreur. Et c'était dommage parce qu'il avait vraiment tout bien fait. Il avait fait l'analyse des verbes. Il avait appris le vocabulaire. Il avait vérifié la grammaire. Il y avait passé des heures. Il avait fait la traduction du passage, mais du mauvais passage de Romains 1 et non de Romains 3. Il avait tout bien fait, mais il était passé à côté de ce qu'on attendait de lui. Et ce texte de 1 Corinthiens 13 que je viens de lire à l'instant, il nous parle de quelque chose de similaire. Il nous parle de comment tout bien faire, mais pourtant passer à côté de l'essentiel. Il nous parle de comment tout réussir, et pourtant passer à côté du plus important. On est en début d'année, c'est le week-end de rentrée, sûrement vous avez des projets pour cette année, vous avez des plans, vous avez des rêves, vous avez des choses que vous voudriez voir advenir dans l'année qui vient, dans ces prochains mois, et si c'est le cas, très bien. Et je ne veux pas casser cette dynamique, mais ce texte d'1 Corinthiens 13, hein, ce matin, il nous pose une question. Il nous dit, si jamais cette année, tous nos plans réussissent, si tous nos projets fonctionnent, si tous nos programmes marchent, qu'est-ce qu'on aura gagné au final ? Qu'est-ce qu'on aura gagné au final ? Comment est-ce que nous, hein, qui sommes disciples de Jésus-Christ, comment est-ce que nous pourrions évaluer que cette année qui vient, ça aura été une réussite ? Imaginez arriver en juin, en juillet 2025. À partir de quel élément, à partir de quelle mesure je pourrais me dire « Oui, cette année, j'ai grandi dans les choses essentielles et importantes. » Et ce texte, je crois, il nous apporte une réponse. Il nous dit que la mesure, le standard qui nous permet d'estimer si cette année sera été ou non une réussite, c'est l'amour. La mesure, le standard qui nous permet d'estimer si on aura progressé dans ce qui est essentiel, selon Dieu, dans l'année qui vient, c'est l'amour. Et c'est mon premier point ce matin, l'amour. La véritable mesure de notre réussite. Donc c'est ça qui sort en rouge, je ne pense pas qu'on le voit bien. La véritable mesure de notre réussite. Le reste est en blanc, ça devrait aller. Paul, en 1 Corinthiens 13, en fait, ce qu'il fait, c'est que, voilà, il s'adresse à cette église de Corinthe et il ramène les chrétiens de Corinthe, et en faisant ça, nous aussi, il nous ramène à l'amour, qui est le véritable étalon, en fait, hein, de la maturité spirituelle, de la croissance spirituelle. Et s'il fait ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans l'église de Corinthe, on a d'autres éléments qui passent bien avant l'amour pour évaluer la croissance, pour évaluer la réussite, pour évaluer le niveau de maturité du disciple de Jésus. Le premier élément pour évaluer la réussite chez les Corinthiens, c'est l'excellence de mes dons. C'est mes charismes, c'est mes dons. Hein, les Corinthiens, ils pensaient que les dons, c'était un signe de supériorité, un signe de maturité. La plupart des Grecs à l'époque, c'était leur cas, ils étaient fascinés par l'éloquence. Quelqu'un qui savait bien parler. Il était adulé, c'était vraiment quelqu'un qui était adulé à l'époque. Ils appréciaient les gens doués là-dedans. Et aujourd'hui, puisqu'on est là aujourd'hui, 21e siècle, on valorise ça toujours dans notre société. Hein, ce qui est mis en avant, il me semble, c'est souvent les dons, c'est souvent les capacités intellectuelles, artistiques, sportives des uns et des autres. On a eu les JO à Paris. À moins d'avoir été sur notre planète, vous le savez, on a eu les JO à Paris qui ont été une belle réussite et on est pratiquement tous tombés en admiration devant les performances de Léon Marchand ou de Simone Biles, qui étaient extraordinaires. Et on a des prix Nobel aussi dans notre société, hein. On a des tas de prix Nobel qui sont là pour des disciplines qui sont nobles, qui sont importantes comme la médecine, la biologie, la physique. Mais intéressant, on a seulement un prix Nobel pour la paix. Un prix Nobel pour la paix. Autrement dit, hein, on honore une vertu morale, mais on a des tas de Nobel pour des vertus intellectuelles. Et je crois que, quelque part, ça dit quelque chose de notre culture. Ces choses-là disent quelque chose de ce qui est valorisé dans notre culture. Ce qu'on valorise, c'est les capacités, c'est les performances, c'est combien la personne elle est douée. Mais ce que Paul dit ici, c'est peu importe finalement combien tu es doué, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien de plus qu'une cymbale bruyante. Hein, à l'époque, dans les temples païens, on frappait sur des gongs comme ça pour attirer la faveur des dieux. On faisait du bruit comme ça. Et c'était pour attirer la faveur des dieux. Et ce que Paul dit ici, en fait, hein, c'est que si le fruit excellent de l'amour, il n'est pas connu dans ma vie, en fait, je suis l'équivalent d'un païen qui espère attirer la faveur de Dieu en tapant sur des gongs, en faisant du bruit. Et oui, on le remarquait, ce gars-là. Ça faisait du bruit. Mais ce que Paul veut dire, c'est en fait, tout ça, c'est du boucan. C'est du vacarme. C'est absolument inutile. Sans doute que ici, hein, la plupart d'entre nous, on connaît Steve Jobs, voilà, fondateur d'Apple, créateur de l'iPhone. Pour le coup, s'il y a une personne très douée, bah, il en fait partie, hein, des gens très très doués. Et voilà simplement ce qu'il a dit sur son lit de mort. Je crois que j'ai mis la citation. Elle est ici, on peut la suivre ensemble. Donc il dit « En ce moment, allongé sur mon lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. La richesse pour laquelle j'ai tant lutté, que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l'amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. » C'est intéressant, quand on demande à quelqu'un, généralement, à la fin de sa vie, ou même dans sa vie, je pourrais vous demander quels sont les moments les plus marquants. Ce qui va venir à notre esprit souvent, en fait, c'est les moments où on a reçu de l'affection, où on en a donné, mais des moments où on s'est senti aimé, où on a aimé de manière généreuse et sans retour. C'est ça qui marque, c'est l'amour. Sans l'amour, les choses ne font pas sens, un peu comme dit Steve Jobs. Les choses sont fades, les choses pâlissent. Donc ça, c'était la première chose, premier élément pour les Corinthiens, l'excellence de mes dons. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le suivant, c'est l'accroissement de ma connaissance. Vous avez ça dans le texte. L'accroissement de ma connaissance. Paul, dans ce texte 1 Corinthiens 13, il insiste aussi sur ça. Il dit « La maturité chrétienne, la réussite de mon année, ne se mesure pas en termes de connaissance. » La connaissance biblique, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire, c'est une chose qui est vitale, c'est une chose essentielle, mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus qu'un exercice cérébral. La connaissance fait partie de la vie chrétienne, mais elle ne la définit pas. La maturité spirituelle, c'est plus que la maturité intellectuelle. Je pense juste que c'est bien de rappeler ça, de dire ça dans un pays comme le nôtre, dans une culture française où, à la suite de Descartes et des Lumières, hein, et de son fameux « je pense donc je suis », on a estimé qu'en fait, si on voulait changer, si on voulait devenir une meilleure personne, alors il fallait qu'on comprenne mieux, il fallait qu'on raisonne mieux, il fallait qu'on pense mieux, il fallait qu'on connaisse mieux. Et parfois dans nos églises, c'est surtout le cas, je pense, dans nos traditions protestantes classiques, réformées, baptistes, luthériennes, le discipulat, la formation chrétienne, souvent ça se résume à la croissance en termes de connaissances. Hein, il y a cette idée que la maturité spirituelle se construit en accumulant compréhension, connaissance, et on commence à rentrer dans une sorte de course à la connaissance, une course à l'érudition. Et la Bible dénigre pas, encore une fois, l'intellect, mais elle ne nous voit pas comme des cerveaux sur pattes. Okay ? On n'est pas des cerveaux sur pattes qui vont accumuler connaissance sur connaissance pour grandir. On est plutôt des cœurs sur pattes. On se définit avant tout par ce qu'on aime. Hein, nous sommes avant tout ce que nous aimons. On est ce qu'on désire. On est ce qu'on adore. On pourrait dire « je désire, donc je suis ». C'est plus comme ça que la Bible nous définit. Ce n'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je désire, donc je suis ». Et voilà pourquoi le plus grand commandement, hein, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Donc encore une fois, la connaissance c'est important, mais on peut avoir la connaissance du monde, du monde entier, on le sait, et avoir un cœur qui est davantage gouverné par la crainte des hommes plutôt que l'amour de Dieu. On peut avoir toute la connaissance du monde et avoir un cœur qui est pourtant auto-centré, plutôt qu'ouvert à Dieu et aux autres. Donc voilà, reconnaissant qu'entre la connaissance et l'amour, souvent ce qui nous fait le plus défaut, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça que Paul nous appelle à rechercher. Rechercher l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1. Pas rechercher la connaissance, rechercher l'amour. Je continue dans cette partie. Donc, troisième élément, après l'excellence de mes dons, après l'accroissement de ma connaissance, la puissance de ma foi. 1 Corinthiens 13, verset 2, Paul y dit « Si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien. » Et ici, Paul, il fait allusion à Matthieu 17, verset 20, où Jésus dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Et Paul dit, en fait, il dit, même si tu as ce genre de foi, une foi que Jésus lui-même préconise quand même, hein, même si tu as ce genre de foi en l'absence d'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. On peut avoir une foi, on peut être zélé, on peut avoir une foi qui déplace les montagnes, mais en même temps être le pire des orgueilleux. Je peux avoir une foi ardente, mais faire tellement de dégâts autour de moi parce que je manque d'amour. Je peux avoir une foi vibrante, mais tenir des discours, avoir des attitudes qui feront qu'en fait, jamais personne ne sera intéressé par l'objet de ma foi, à savoir Jésus-Christ, à cause de cette attitude-là. À cause de cette attitude-là. Mais encore une fois, comprenez-moi, la connaissance, c'est bon, le zèle, c'est bien, mais ce n'est pas la voie par excellence. Paul est en train de nous ramener à l'essentiel. La preuve que je suis rempli de l'Esprit-Saint ne se trouve pas dans ma connaissance, ne se trouve pas dans mon zèle, mais dans l'amour que j'ai pour le Seigneur et pour les autres. Et donc, quatrième point, j'avance. Peut-être le point le plus marquant, je vais vous expliquer pourquoi. Verset 3. Donc, autre élément, hein, la grandeur des œuvres accomplies. Les Corinthiens utilisaient ça aussi pour évaluer la réussite. La grandeur de mes œuvres. Verset 3, Paul dit, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Je pense vraiment que c'est le verset le plus interpellant parmi tous ceux qu'on a lus. Paul ici, en fait, je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais il nous enseigne quelque chose. Il nous dit, on peut être quelqu'un de bien et que ça ne nous serve à rien. On peut être quelqu'un de bien et que ça ne nous serve à rien. Dans ce verset, Paul, il parle de tout ce qu'on va donner, de tout ce qu'on va sacrifier, de tout ce qu'on va abandonner pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Et en fait, il nous parle du danger d'être quelqu'un de bien. Le danger d'être quelqu'un de bien, c'est que finalement, on a, et c'est ça que Paul pointe du doigt ici, on a besoin de sonder les motivations profondes, les motivations intérieures de notre cœur. Parce qu'on a tous tendance à regarder en fait que ce qui est extérieur, un peu comme dans l'iceberg, cette image de l'iceberg. Ou dans l'iceberg, vous voyez, hein, ce qui est le plus important, c'est ce qui est sous l'eau, et c'est ce que personne ne voit en fait. C'est ce que personne ne voit. On voit ce qui est en surface seulement, mais il y a toute une partie profonde qui est beaucoup plus importante et qu'on ne voit pas. Et après avoir vu que certains Corinthiens se définissaient par ce qu'ils possédaient, on voit que dans ce verset, à Corinthe, certains se définissaient par ce qu'ils donnaient. Hein, c'est comme si certains Corinthiens étaient remplis de choses comme les dons, la connaissance, la foi, et ils disaient c'est ça le plus important. Et il y avait d'autres Corinthiens qui essayaient de donner plein de choses en disant que donner c'était ça le plus important. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, mais quel plus grand amour que de donner ? De donner aux autres. Peut-être que certains d'entre nous, ici, on définirait l'amour comme ça. On pense à des figures comme Mère Teresa, et chrétien ou non, tout le monde se dit, c'était l'amour en action, c'était quelqu'un de magnifique. Et Paul, pourtant, il va un peu plus loin que ça. Il va jusqu'à dire que la moralité extérieure de mon cœur, le fait que je suis quelqu'un de bien, de bon, de gentil, de généreux, d'empathique, de bienveillant, d'intègre, d'honnête, le fait que je suis quelqu'un de formidable, que les gens apprécient, dont la compagnie est agréable et que par-dessus tout, je me prive en tant que père, en tant que mari, en tant qu'ami, eh bien toutes ces vertus en fait ne montrent que l'extérieur. Et Paul dit, si je n'ai que cela, mais qu'au fond de l'iceberg, ce n'est pas l'amour qui est présent, tout ce qui est à l'extérieur ne me sert à rien. Tout ce qui est à l'extérieur ne me sert à rien. C'est quelque chose qui est extrêmement profond. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est extrêmement profond ce que Paul est en train de dire. La question qu'il pose ici, et que je me pose à moi-même, et que je vous pose ce matin, en fait, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Quelles sont les raisons profondes qui m'animent ? Est-ce que je le fais pour l'autre ou est-ce que je le fais pour moi-même ? Et je vous avoue que la réponse, elle n'est pas du tout si simple que ça, les amis. Est-ce que je le fais pour exister ? Est-ce que je le fais pour prouver ? Pour être aimé ? Pour être apprécié ? Pour être admiré ? Est-ce que je le fais pour ne pas être seul ? Est-ce que je le fais pour ne pas déranger ? Pour ne pas froisser ? Pour ne pas contrarier ? Est-ce que je le fais pour avoir raison ? Est-ce que je le fais parce que ça remplit mon vide intérieur ? Est-ce que je le fais pour compter ? Pour compter pour Dieu ? Pour compter pour mes amis, pour compter pour mon patron. Pourquoi je fais ce que je fais ? C'est ça l'enjeu que Paul est en train de souligner. Et Paul nous dit, il nous dit, sonde bien ton cœur. Parce que, en fait, si ce n'est pas l'amour qu'on trouve au fond, tout ce qu'on aura pu produire, aussi beau soit-il, les belles œuvres, les belles actions, tout ça, ça ne comptera pas. Ce qui donne de la valeur à ce que je fais, c'est l'amour qui habite mon cœur. C'est ça qui donne de la valeur à ce que je fais. Je peux être quelqu'un de bien, mais que ça ne me serve à rien. Alors finalement, à quoi on va mesurer la réussite de notre année ? À quoi on va mesurer notre maturité ? Ben, non pas à mon excellence dans mes dons, mes aptitudes, non pas à la connaissance que j'accumule, non pas à la ferveur de ma foi, non pas à la grandeur de mes œuvres, mais à l'amour que je donne et qui grandit dans mon cœur. Ça va ? Jusque-là, vous voyez là où Paul nous amène ? Donc, ce que je vous dis là, ça va me conduire à ma deuxième partie pour ce matin. De l'utilitarisme à l'amour. Voilà, ça ne se voit pas, mais c'est marqué de l'utilitarisme à l'amour. Je changerai le rouge pour demain. Pratiquement tout ce que je vais vous dire, maintenant, en fait, je le tiens d'un livre et de quelqu'un qui s'appelle Pascalide. Donc, vous l'avez ici. Pascalide, il est médecin, il est prêtre, il est philosophe et il a écrit le livre suivant que je vous recommande chaudement. Aimer l'autre sans l'utiliser pour des relations transformées. Donc, honnêtement, c'est difficile de prêcher sur l'amour en une heure. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Simplement, ce livre existe. Donc, tout ce que je ne pourrais pas vous dire, il y a ce livre qui est là. Je vous invite à vous le procurer, à le lire surtout. En tout cas, je vous promets que si vous le lisez, ça sera du temps bien investi. Et une des choses que Pascalide, en fait, il dit hein, dans ce livre, c'est que notre cœur est malade. Notre cœur est profondément malade. Et même si on a le désir de rechercher le bien de l'autre, souvent on agit de manière égocentrée, sans en avoir conscience. C'est inconscient. Je vais vous donner quelques exemples que je tire du livre pour me faire comprendre et pour vous montrer là où je veux aller. Donc, un exemple, voilà, Jade qui, quand elle avait 20 ans, passait beaucoup de temps avec ses amis. Elle aimait la présence de ses amis, elle aimait rigoler, elle aimait passer des bons moments avec eux. Elle disait, mon intention, c'était de passer de moments joyeux, pas d'arrière-pensée, voilà. Et plus tard, elle explique qu'elle a fait un travail sur elle. Elle a relu son histoire et elle a compris en fait que l'amitié était pour elle une fuite. Elle disait, si je riais tout le temps, c'était pour m'éviter de penser à des choses tristes. En l'occurrence, à mes parents qui n'arrêtaient pas de se disputer. Et elle avait vraiment peur à l'époque hein, qu'ils se séparent. Et elle dit, j'ai alors pris conscience que ma relation à mes amis était utilitariste. Je les aimais non pas pour eux-mêmes, mais pour le plaisir et la fuite qu'ils me donnaient. C'est intéressant, hein. Ici Jade n'utilise pas ses amis dans le sens où elle les manipulerait pour obtenir d'eux ce qu'elle a envie, ce qu'elle aimerait, mais il y a quand même un problème, c'est qu'avec le recul, hein, elle se rend compte que son attitude est utilitariste, dans le sens qu'elle n'est pas là à chercher premièrement le bien de ses amis, mais à les utiliser pour son bien à elle, pour son contentement à elle. Elle les utilise pour se faire du bien, pour son plaisir, elle se sert d'eux plus qu'elle ne les sert ou s'intéresse à eux. Donc en fait, on est là un peu dans une relation de type utilitariste. Je suis en relation avec l'autre pour mon propre bénéfice. Un autre exemple dans le couple et dans la famille cette fois, donc c'est Laura qui aime vraiment pas conduire, surtout quand il y a des bouchons de partout. Son mari Arnaud, donc il roule toute la journée pour se rendre à Digne-les-Bains, c'est la destination des vacances familiales. Une fois arrivés, les enfants sortent de la voiture, ils sont ravis, ils crient de joie. Laura, elle a profité de la route pour faire une bonne sieste. Elle sort, elle voit le paysage, elle s'enthousiasme. Oh là là, c'est trop beau, génial. Qu'est-ce qu'on fait pour le dîner ? Et là, Arnaud sent une colère un peu sourde là, qui monte en lui. Et il voit Laura et lui dit, écoute, je me suis tapé toute la route, tu vas te taper les courses. Et Laura est un peu saisie, genre, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, après le coucher des enfants, ils vont avoir une discussion ensemble, et Arnaud va lui dire, mais en fait, il n'y a eu aucune gratitude, il n'y a eu aucune reconnaissance, et du coup, je me suis senti utilisé. J'ai eu l'impression d'avoir été utilisé. Personne ne m'a dit merci pour la route. Et Laura va lui demander pardon, mais c'est que le lendemain que Arnaud aussi va se rendre compte, il va prendre conscience qu'en se mettant en colère, en fait, il a transformé le don en dû. Il a transformé le don en dû. Hein, j'explique juste, c'est donc il n'y a pas de reconnaissance de la part de Laura et des enfants, ils ont une attitude utilitariste. Arnaud, c'est un chauffeur qui les conduit à destination, en l'occurrence Digne-les-Bains, où ils vont passer des chouettes vacances. C'est qu'un moyen pour atteindre leur but. Et subtilement, peut-être plus subtilement par contre du côté d'Arnaud, hein, en se mettant en colère, en exigeant de manière secrète la reconnaissance, il finit lui aussi par instrumentaliser l'autre. Il finit lui aussi par utiliser son épouse pour son avantage. Elle n'a pas d'autre choix que de se taper les courses, pour reprendre son expression. Voilà, et donc elle est utilisée par lui, une attitude utilitariste. Donc, deux exemples rapides où ici, vous voyez, on a affaire à des relations utilitaristes et c'est inconscient. Il n'y a pas forcément cette volonté de mal faire, mais il y a ça qui se joue. On a ici, dans ces histoires, des personnes qui, avant tout, cherchent leur plaisir personnel, cherchent leur bien personnel, plutôt que le bien et le plaisir de l'autre. Et la réalité, c'est que ça ne s'arrête pas là. On agit comme ça entre nous, mais avec Dieu, on peut faire pareil. Avec Dieu, on peut être dans une relation de type utilitariste. Quand on s'adresse à Dieu, quand il y a de besoin, quand on lui parle uniquement pour demander, et qu'on demande que pour nous-mêmes, notre relation avec Dieu, elle est utilitariste. Hein. Dieu est réduit à être ce tiroir caisse qui donne en cas de besoin. C'est l'attitude finalement qu'on vilipende assez vite, mais qu'on retrouve dans nos cœurs, hein, l'attitude des 9 lépreux que Jésus va guérir, mais qui montre aucune reconnaissance. Hein, il demande à Jésus la guérison, et encore une fois, le problème n'est pas dans le fait de demander, c'est très bien de demander, mais ils reçoivent sans remercier, sans une once de gratitude. Jésus leur a donné, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ils passent totalement à autre chose. Ils sont dans une attitude utilitariste vis-à-vis de Jésus. Ils sont intéressés par la guérison, pas par le guérisseur, seulement par la guérison. Et de même, hein, quand on s'adresse à Dieu pour notre bien-être, uniquement pour ressentir un peu de paix, un peu de joie, là aussi, on est dans une attitude utilitariste. On sait que parfois, dans nos relations, on peut aimer, ça arrive parfois dans un couple, ou quand les relations se font, on peut aimer et rechercher le sentiment amoureux, plus que le conjoint. Avec Dieu, c'est pareil, on peut rechercher et aimer les sensations religieuses, plus que Dieu. Et dans ce cas-là, c'est une attitude utilitariste vis-à-vis de Dieu. Et donc, tout notre défi, vous voyez, tout ce défi, ça va être de passer petit à petit de l'utilitarisme à l'amour. Passer de utiliser à aimer. Je vous ai fait un petit tableau, qui est là, qu'on retrouve dans le livre de Pascal Hyde. Donc, tout l'objectif, ça va être de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, de utiliser à aimer, de se servir de l'autre à servir l'autre, d'utiliser l'autre pour mon bien à moi, à chercher le bien de l'autre pour l'autre, de considérer l'autre comme un moyen, à considérer l'autre comme une fin, de traiter l'autre comme une chose ou un instrument, à traiter l'autre comme une personne, et de voir dans l'autre un objet, à voir dans l'autre un sujet. Et quand on est dans des relations comme celle-ci, donc la colonne de droite ici, hein, ça nous conduit en fait à vivre ce que Dieu veut, à vivre ce plan parfait que Dieu il a. Et c'est ça qui nous conduit à la joie, qui nous conduit au bonheur. Parce que tous ici, sans exception, vous voulez tous être aimés pour vous-même. C'est vrai. On veut tous être aimés pour nous-mêmes. Et c'est légitime. C'est légitime. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais c'est ça qu'on doit apprendre à faire, pour aimer et vivre comme Jésus. C'est ça le but. C'est d'être comme le Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. Et donc la grande question maintenant, c'est comment ? Comment on fait ça ? Comment on passe de l'utilitarisme en l'amour ? Comment grandir dans l'amour pour que cette année soit une année de progression, une année de réussite, une année où finalement on investit dans la chose essentielle selon la Bible. Donc voilà, le dernier point que vous ne verrez pas puisque c'est en rouge, comment passer de l'utilitarisme à l'amour ? Je veux juste faire deux précisions quand même parce que j'ai peur qu'il y ait des malentendus, donc je veux juste préciser deux choses, peut-être que c'est des objections qui vous sont venues en tête. Il est tout à fait légitime, hein, et même parfois c'est indispensable, de demander un service à l'autre en vue de notre propre bien. C'est légitime de faire ça. Demander n'est pas utiliser, surtout si notre demande elle est claire, surtout si on est en train de respecter la liberté de l'autre, qui peut nous dire oui ou nous dire non. L'autre, s'il peut nous dire ce qu'il veut, sans que plus tard on lui fasse payer sa réponse, hein, parce que parfois on a ça, l'autre nous dit non, et puis sur le qu'on fait oui, pas de souci, puis bon, on lui fait payer un peu plus tard, quoi, on envoie la facture un peu plus tardivement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est demander pour soi sans exiger, ce n'est pas utiliser. Ça, c'est important. Et il y a des cas aussi où demander en exigeant n'est pas utilitariste. Bon, l'exemple classique, c'est le cas de relations contractuelles. Si après-demain, votre patron vous demande quelque chose et l'exige, vous n'allez pas lui dire « Ah là là, je me sens utilisé. » Non, tu ne peux pas. C'est différent. On est dans des relations de type contractuel où le boss est censé nous payer en retour pour notre travail. Bien sûr, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des injustices, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de vous dire qu'il y a une différence entre des relations contractuelles, entre employeur-employé, et une relation de couple ou une relation d'amitié. On n'est pas sur le même plan. Donc voilà, je précise ça, je veux éviter les malentendus. Mais maintenant, pour revenir à notre question, comment on passe de l'utilitarisme à l'amour ? Donc quelques points. La première chose, c'est prendre conscience de son angle mort. Je pense que voilà, en vous amenant ces choses-là, peut-être qu'il y a des angles morts qui commencent à se visualiser. Mais prendre conscience que, en fait, parfois, déjà, peut-être souvent, j'ai utilisé ou j'ai été utilisé par l'autre. Il y a pratiquement 100% de chances que ce soit le cas. Prendre conscience aussi que c'est souvent inconscient, mais vous savez, c'est très facile de construire un attachement à une personne, à une situation ou un travail sur un profit commun, sur l'utilité commune ou encore sur un besoin personnel à combler. On fait ça souvent. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'une fois que mon besoin est terminé, je passe à autre chose. Une fois que mon besoin disparaît, l'attachement lui aussi disparaît. Si c'est le cas, c'est sans doute que l'utilitarisme était peut-être pas très loin. Et pour déceler notre angle mort, déceler l'utilitarisme potentiel de nos cœurs, c'est bon de régulièrement se poser la question, est-ce que dans mon attitude, est-ce que dans cette parole que je viens de donner, dans cette façon de faire, est-ce que je cherche d'abord mon bien, mon plaisir à moi, ou le bien et le plaisir de l'autre, et donc la communion avec lui ? Pour qui est-ce que vraiment je pose cet acte ? Est-ce que c'est pour moi, ou est-ce que c'est pour l'autre ? Pour qui je suis en train de dire ça ? Est-ce que c'est pour moi, pour me faire du bien, pour vider mon sac, ou est-ce que c'est pour l'autre ? Pour le construire, pour l'édifier, pour l'aider à marcher dans la vérité. Donc, prendre conscience de cet angle mort, et aussi choisir d'aimer et de ne plus utiliser. Alors, c'est bête à dire, mais pas tant que ça. Les deux vont vraiment ensemble aussi. Les deux vont vraiment ensemble. Pour beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de oui à quelque chose sans dire non à autre chose. Je pense que vous l'avez remarqué. On dit oui à des choses, et après on se rend compte parfois, ah ouais, mais du coup, je suis obligé de dire non à ça. Mais tout choix implique un renoncement. Et dire oui à l'amour, en fait, ça doit s'accompagner de ça, d'un non tout aussi net, tout aussi limpide au fait d'utiliser l'autre. On pourrait parler aussi de purifier ses intentions. Pour prendre un vocabulaire biblique, le cœur pur. Ce qui est pur, c'est ce qui est sans mélange. Et ce qui est impur, c'est ce qui est mélangé, ce qui est mixé. Et le cœur utilitariste, c'est un cœur impur. Parce qu'il semble chercher le bien de l'autre, mais il détourne ça pour lui-même. Pour son bien à lui. Dans l'évangile, Matthieu, Jésus qui dit « heureux les cœurs purs », pour le prendre sous cet angle-là, on pourrait dire « heureux ceux qui prennent conscience de leur utilitarisme, qui décident de vivre différemment en passant de l'utilitarisme à l'amour. Heureux ceux qui décident de purifier leur intention, de faire en sorte qu'elle soit sans mélange, qu'elle soit pure devant Dieu. » Donc, prendre conscience, choisir d'aimer et de ne pas utiliser, mais aussi recevoir. Et l'image que j'aimerais prendre ici, en fait, c'est celle du réservoir. Du réservoir. Donc il y a en gros deux configurations. Soit on a le réservoir qui est vide, et en fait, alors on va chercher à être proche des autres pour que notre réservoir se remplisse. Hein, l'idée ici, c'est qu'on a un besoin. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être admiré. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin de la présence des autres, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Soit, et encore une fois, c'est ce que Paul essaie de nous pointer du doigt en Corinthiens 13, il me semble, c'est le contraire, c'est que, ayant compris l'amour de Dieu dans ma vie, ayant compris cet amour dont je suis aimé par le Seigneur, ayant compris la plénitude de qui Dieu est, mon réservoir est plein. Mon réservoir est plein, je suis plein de Dieu, je suis plein de son amour, je suis plein de son esprit, et je peux, avec cet amour-là, me déverser dans ceux qui sont autour de moi et les aimer. Et quand vous agirez, la différence, elle est énorme. Et vous savez quoi ? Extérieurement, personne ne la voit. Personne ne la remarque. Personne ne le sait. Mais vous, intérieurement, vous le savez. Vous savez, si vous agissez avec bonté envers l'autre parce que vous êtes vide et vous cherchez à vous remplir, ou si au contraire, vous êtes rempli de cette plénitude de Dieu et vous voulez la déverser autour de vous de manière désintéressée. Nous, on le sait. Comment ça se passe ? Et pour donner de manière véritable, il faut avoir reçu. Je crois que plusieurs d'entre nous, on a du mal à donner parfois parce qu'on a du mal à recevoir. On a parfois du mal à aimer parce qu'on a du mal à se laisser aimer. par le Seigneur. C'est quelque chose, je crois, qui s'apprend. Apprendre à se laisser aimer par le Seigneur. Apprendre à recevoir de lui. Est-ce que vous vous rappelez, d'ailleurs, par rapport à ça, quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur. J'ai entendu un gros brouhaha, mais oui, je l'ai entendu au milieu du gros brouhaha. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Alors, pas tout à fait, ça va peut-être vous surprendre. On oublie quelque chose. Et cet oubli, je crois, il est assez révélateur. En Marc 12, 28, vous pourrez aller voir. Hein. Marc 12, 28, Jésus répond à cette question. Quel est le commandement le plus important de tous ? Voilà ce qu'il dit. Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Et seulement après, hein, vient le passage, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais c'est intéressant, écoute. En fait, ça commence par là. Il commence par ça. On se place d'abord dans une attitude de réceptivité. On entend la parole du Seigneur, on entend cet amour, on reçoit cet amour, on reçoit tout ce que le Seigneur veut nous donner. On écoute pour ensuite aimer de manière véritable. Écoute, Israël. Donc, voilà pour ces différents points. Donc, j'ai dit prendre conscience de son angle mort, choisir d'aimer, ne plus utiliser, recevoir. Donc, il me reste deux points qui sont importants. Alors, j'aimerais juste pas qu'on se fasse d'illusions, parce que quand vous commencez à vous attaquer un peu à ça, quand vous commencez un peu à réaliser ce qui se passe en vous, vous vous rendez compte que les racines de l'utilitarisme, elles sont quand même là, hein. Elles sont quand même profondes. Et le chemin vers l'amour véritable, il est lent, il est difficile, et parfois ça implique le découragement ou l'envie d'abandonner en cours de route. C'est jamais très très loin ces choses-là. Mais je crois qu'il est possible de progresser sans se décourager, et donc c'est ces deux points que je vous amène ce matin. Deux principes essentiels pour ça, pour progresser sans se décourager. Je vous les donne maintenant. On va voir le premier à partir de l'exemple de Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, peut-être certains vous connaissez, je vois qu'il y en a qui hochent de la tête. Donc prêtre catholique, pour ceux qui ne connaissent pas Maximilien Kolb, hein, il est déporté à Auschwitz. Et fin juillet 1941, donc il y a un prisonnier qui s'échappe du camp. Et donc là, on a Fritz, le commandement du camp, qui arrive, qui fait sortir tout le monde des baraquements. Et il rappelle la règle, pour un prisonnier qui s'échappe, il y en a 10 qui doivent mourir dans des conditions atroces. Donc Fritz, il est là, il choisit 9 personnes de manière totalement aléatoire. Puis il en choisit une dixième qui va s'écrouler, qui va supplier Fritz de pas le prendre parce qu'en fait, il est père de famille, parce qu'il a une femme, parce qu'il a des enfants. Et alors, le père Kolb, qui est là, bah, il va sortir des rangs et il va se diriger vers Fritz. Et il va lui dire, dans un allemand parfait, il va lui dire, je suis prêtre catholique de Pologne et je veux prendre la place de cet homme parce qu'il a une femme et des enfants. Et Fritz peut faire ce qu'il veut. Hein. Enfin, c'est le commandement du camp, ça se trouve, il peut dire, allez, on en prend un 11e. Enfin, voilà. Tellement ça peut être sournois. Mais enfin, les témoins qui sont là disent que Fritz est tellement frappé parce qu'il entend qu'il recule, il fait un pas de recul. On voit qu'il est frappé par cette demande. Et il va écouter Kolb qui va continuer à parler. Et finalement, il va accéder à la demande. Il va prendre Kolb à la place de cet homme. Et donc Kolb va suivre ses compagnons de malheur hein, dans leur sort. Ils vont aller dans un lieu, un bloc particulièrement horrible où on affamait les gens jusqu'à la mort. Et ce lieu, en fait, va devenir un lieu où les personnes vont se mettre à chanter des cantiques, à louer Dieu. Alors, ce n'est pas un paradis, ça reste Auschwitz. Mais ce qui va se passer, c'est quand même qu'il y a ça qui se joue, et les gardes eux-mêmes hein, vont être moins durs qu'à l'accoutumée, et Kolb va finir par confesser un par un les 9 gars qui sont avec lui. Et il finira par mourir en dernier le 14 août 1941. Donc une histoire assez extraordinaire, je vous ai fait le résumé condensé, il y a plein de choses à dire dessus, mais ce qui m'intéresse en fait pour nous ce matin, c'est de savoir comment le père Kolb, comment il fait, comment il arrive à poser un acte si héroïque, si extraordinaire. Comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Et la réponse, en fait, on l'a, elle saute aux yeux quand on lit sa biographie, c'est qu'en fait, il s'y est préparé toute sa vie. Il s'y est préparé au quotidien durant sa vie, il faisait passer au quotidien l'autre avant lui. Je vous donne un exemple entre mille, vous pouvez lire la biographie du père Kolb, hein. Il y a un frère du couvent de Niepokalanov, donc en Pologne, un jour qui se rappelle que c'était la nuit même, dans son dortoir, il est là et il sent quelque chose au niveau de ses pieds durant la nuit. Il ouvre un peu l'œil et il voit le père Kolb qui était là, simplement à remettre la couverture qui dépassait, enfin ses pieds dépassaient de la couverture. Le père Kolb était passé par là, il était en train de remettre la couverture sur ses pieds. Il l'a rebordé discrètement. Et il y a plein d'actes de bonté, de bienveillance qui émanent de cette biographie-là. Même le médecin du camp d'Auschwitz parlait de Kolb comme étant ce petit homme humble qui cherchait toujours à rendre service. Et donc, l'acte que le père Kolb pose de manière héroïque, nous, ça nous paraît une montagne de faire ça. La réalité, c'est qu'il a été longuement préparé à l'avance par des actes du quotidien. C'est le quotidien qui vient nous transformer. C'est ça qui est important de retenir. C'est les actions qu'on pose dans le quotidien qui sont efficaces pour nous transformer. Ça, c'est ce qu'on voit avec le père Kolb. Donc ça, c'est le premier principe. Et il y en a un second qui est simplifié. En fait, il se résume par l'acronyme PPPP. Le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible. Les actes qu'on est appelé à poser dans le quotidien, ça doit être des petits pas. Ça doit être des actes qu'on est sûr de pouvoir poser. En fait, ce qui nous transforme, ce sont des petits actes qu'on répète sans cesse. Des petites choses. Et ça n'a l'air de rien. L'échelle, là, les barreaux sont très proches les uns des autres. Mais la personne, elle va réussir à monter, alors que l'autre, où les échelons sont très espacés, ne peut pas finalement vraiment progresser. Ce qui nous transforme, c'est ça. Le simple fait de poser un petit acte est transformateur. Le simple fait de poser un acte bon me rend bon. Et à l'inverse, le simple fait de poser un acte égoïste me rend un peu plus mauvais que ce que je ne suis, sans qu'à aucun moment ce soit irréversible. Tout acte bon que je pose me rend meilleur, me fait progresser. Tout acte mauvais que je pose me rend pire, me fait régresser. Dieu nous a fait comme ça. D'ailleurs, si vous aimez les neurosciences, si vous lisez des articles dans ce domaine, vous vous rendrez compte que les chercheurs nous disent une chose. Ils nous disent notre cerveau, c'est une création totalement géniale dont la plus grande caractéristique, c'est la malléabilité. Il n'y a pas plus malléable, il n'y a pas plus transformable que notre cerveau. Et ça, c'est super encourageant parce que Dieu nous a créés d'une façon telle qu'on peut changer, qu'on peut s'améliorer. Il y a une étude, je vous donne juste simplement le résultat d'une étude, une étude qui a été faite il y a quelques temps de ça, où un chercheur a comparé deux groupes. Dans le premier, les participants, ils avaient tous les jours un travail de méditation à faire sur l'amour altruiste. 30 minutes par jour pendant 2 semaines. Travail de méditation sur l'amour altruiste. Dans le deuxième groupe, les participants suivaient un stage de réévaluation cognitive pour réguler leurs émotions. Résultat, on a des changements significatifs qui se sont produits dans le premier groupe. Dans le premier groupe, ceux qui devaient méditer pendant 30 minutes sur l'amour altruiste. On a observé dans le comportement une croissance des activités, des attitudes prosociales, c'est-à-dire compassion envers l'autre, une aide active. Et on a même observé des changements dans le cerveau, avec l'amygdale, qui est une aire du cerveau souvent qui est associée à la peur, à l'agressivité. En fait, elle a vu son activité diminuer. Donc, vous rendez compte quand même des résultats de cette étude. Il est simplement question ici de méditer 30 minutes par jour sur comment aimer mieux. Et l'étude montre que des changements sont opérés après seulement 2 à 5 jours d'entraînement à la compassion. 2 à 5 jours d'entraînement à la compassion. Donc ça doit nous donner une espérance de se dire « je peux avancer, je peux progresser ». Non seulement Dieu travaille en moi, par son esprit, non seulement il me change, il travaille mon cœur, il me change, il me donne une vie nouvelle, mais en plus, dans la façon même dont il nous a créés, il nous a tout donné pour qu'on s'améliore, pour qu'on grandisse, pour qu'on change. Autrement dit, il y a de l'espoir. Et donc, au quotidien, ce que je vous appelle à faire, à vouloir mettre en pratique, c'est ça, c'est de prier. Hein. On demande à Dieu qu'il agisse en nous, qu'il vienne nous transformer par son Saint-Esprit, et on agit. Et on agit en pensant petit pas. Donc, prière et volonté. Volonté et prière. Et les deux vont ensemble, toujours. Dans la sanctification, les deux vont ensemble. C'est jamais seulement l'œuvre de Dieu seul ou la volonté de l'homme seul, c'est les deux ensemble dans la sanctification. Pour progresser, prière et volonté au quotidien. On prie et on agit au quotidien. Et donc, quand on agit, on pense, comme je vous le mets ici, PPPP, le plus petit pas possible. De manière concrète, je vais vous donner quelques exemples de PPPP. Certains que je pratique, mais libre à vous d'en trouver d'autres en faisant parler votre créativité. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais par exemple, dire bonjour ou saluer quelqu'un gratuitement, ça a l'air de rien. Et pourtant, à envoyer un WhatsApp à mon conjoint ou à un ami pour lui dire que je pense à lui alors qu'il a une rencontre difficile avec son N+2. Dans une soirée ou un dimanche matin après le culte, on s'arrache à notre groupe d'amis, on prend X minutes avec un inconnu, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, quelqu'un qui se trouve seul. Écouter attentivement son conjoint raconter sa journée pendant X minutes, sans aller en même temps consulter nos mails ou être sur notre téléphone à checker les trucs qui nous intéressent. Un autre truc, prier pendant X minutes sans faire autre chose. Un temps gratuit pour le Seigneur. C'est pas je suis en voiture, je vais à mon travail, j'en profite, je rentabilise, je prie dans ma voiture. Non, je me pose un temps gratuit avec le Seigneur, juste pour lui. Gratuitement, je donne de mon temps au Seigneur. Ce sont des petites choses, mais ce n'est pas des choses qui sont au-delà de nos forces. Et pour autant, c'est des choses qui nous transforment, des choses ordinaires. C'est ce quotidien-là, ces choses ordinaires-là qui nous transforment, qui font en nous une œuvre extraordinaire. Donc, je regarde l'heure. Je vais peut-être résumer ce qu'on a vu. Je vais peut-être résumer un peu ce qu'on a vu, parce que voilà, je suis conscient que ça fait... On a eu plusieurs choses ce matin. Donc, on a parlé de croissance, de réussite, de réussir son année, de la maturité chrétienne. On a vu que ça consiste à vivre en recherchant ce qui est permanent, en cultivant ce qui est éternel, autrement dit l'amour. Hein, au ciel, personne ne guérira personne, personne ne chassera les démons, personne ne prophétisera, personne ne discernera les esprits, mais ce qui va rester, c'est l'amour. L'amour qu'on aura les uns envers les autres. Et en cela, l'amour est supérieur vraiment à tout le reste parce qu'il nous introduit dans les réalités éternelles. Il anticipe ce qu'on va vivre dans l'éternité. C'est la voie par excellence, selon la Bible. Et ensuite, on a vu comment passer de l'utilitarisme à l'amour. Donc, je vous remets un peu ces différents points. Prendre conscience de son utilitarisme, choisir de dire oui à l'amour, non à l'utilitarisme, recevoir de Dieu, hein, apprendre à aimer le Seigneur, à se laisser aimer par lui, prier et s'entraîner à la vertu dans le quotidien par des petits actes qu'on va répéter. Et j'aurais pu ajouter imiter le Christ. Imiter le Christ, ça c'est un exemple fort aussi, qui peut être une source de motivation. Quand on voit l'attitude de Jésus, et je veux terminer avec ça, avec ce verset, Matthieu 20, verset 28, où voilà ce qu'il est dit du Seigneur, il est dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus, c'est l'exemple parfait d'un amour qui n'est pas utilitariste. C'est l'exemple parfait, ultime, de l'amour. Il ne nous traite jamais comme des objets. Il ne nous traite jamais comme des choses. Il nous traite comme des sujets. Il ne nous instrumentalise pas. Il ne nous manipule pas. Il nous sert. Il est venu pour ça, pour nous servir. Et il nous appelle à nous servir les uns les autres en retour. Le Christ est celui qui a vécu pour nous, pour les autres, et pour la multitude. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est ça le but de notre vie. C'est ça le focus, c'est vivre et aimer comme Jésus. Et l'amour que Jésus, hein, pendant sa passion, il a vécu jusqu'à l'extrême en donnant sa vie pour nous. En fait, vous relisez les évangiles, vous voyez une chose, c'est qu'il s'y est préparé bien avant à ça. Dans le quotidien, relisez les évangiles, ça transparaît. Dans le quotidien, il s'est préparé à ce qui allait venir. Il s'est préparé en donnant, en servant au quotidien. Et c'est pour ça qu'à la croix, il a cette capacité d'aller jusque-là, dans cet amour ultime, de se donner tout entier pour nous. On pourrait même dire... au-delà de sa vie terrestre, hein, que si Jésus est tout tourné vers l'homme, vers nous, qui vient sauver, c'est parce que depuis toujours, au commencement, c'est-à-dire dans la vie éternelle, il est tout tourné vers l'autre, il est tout tourné vers son Père. Sa nourriture est de faire la volonté d'un autre, de faire la volonté de son Père. Alors, c'est ça ma prière, c'est que le Seigneur soit notre modèle, qu'il nous vienne en aide pour qu'on réussisse aussi à vivre cette exhortation de l'Épître aux Romains, hein, où Paul nous dit en Romains 12, verset 9, que notre amour soit sans hypocrisie. C'est un peu ça que j'ai développé ce matin, quand Paul dit que notre amour soit sans hypocrisie. Est-ce que je peux inviter peut-être l'équipe de louange à me rejoindre, si c'est possible pour vous, au moins de jouer un instrumental, je ne sais pas si vous voulez reprendre un chant après, mais au moins de jouer un instrumental, parce que j'aimerais juste qu'on prenne le temps de répondre à ce qu'on a vu ce matin. Pas juste de repartir de là en se disant « voilà, il y a des choses qui peuvent me paraître intéressantes dans ce message. Ok, j'ai saisi, quel est le but de mon année ?» Mais j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter le Seigneur. Peut-être certains ici, après ce message, vous avez envie de, ou besoin de dire certaines choses au Seigneur, peut-être de lui confesser des choses, peut-être de lui demander son aide, peut-être de revoir vos priorités pour cette année. Sachez que c'est un temps là où j'aimerais qu'on ait quelques minutes où simplement on peut chacun fermer les yeux, se poser devant le Seigneur. Et aussi j'aimerais prier, mais avancer en même temps. Ah oui, vas-y. Je le finirai après. Et aussi en même temps, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Je vous invite à réfléchir à trois actes. On a parlé du plus petit pas possible. Trois actes concrets que vous aimeriez mettre en pratique cette année. Trois actes concrets que vous aimeriez mettre en pratique cette année. Peut-être dans le quotidien, c'est juste ce que vous allez faire au quotidien. Mais trois actes qui vont vous aider à vous décentrer un peu de vous et à vous centrer sur l'autre. Trois choses concrètes pour ressortir cette prédication avec quelque chose aussi qu'on va mettre en pratique dans l'année. Donc pendant que vous jouez un instrumental, si ça vous va, je veux bien. Simplement, prenez un temps, prenons un temps les uns les autres.